Retour dans les studios.
Avec Les Forains. Les Forains, c'est l'histoire d'une rencontre improbable avec le monde des gens bien, civilisés, roulant sur la voie droite d'une société qui file à toute allure, freine dans ce nulle part peuplé de ceux qui restent au bord des rails, les exclus, les rustres, les marginaux. Un moment de folie à la croisée des chemins où il n'y a plus de chemin. Un petit tour dans le manège de l'humanité, un petit tour pour voir, un petit tour pour rire. Alors, c'est un spectacle tout public, accessible à partir de 8 ans. Vous êtes 5 sur scène et donc après Chalon, vous investissez le théâtre du Grand Rond jusqu'au 13 août. Oui. Bienvenue à vous trois.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Donc là, dans les studios, on a Louise, Antonio et... Christelle. Oui. Alors, je me suis mis Louise dans la tête, donc...
Christelle. De toute façon, c'est pas grave parce qu'on me prendra pour un garçon, donc il n'y a pas de problème.
Non, alors.
Non, j'ai l'habitude. Mais c'est moi, Christelle.
Très belle voix, Christelle.
Merci.
Antonio et Frédéric, elles rattrapent mes petites gourdes.
Non, c'est vrai, je le pense. Donc, qui d'autre dans ce studio?
Du coup, j'ai dit tout le monde.
Ça y est.
Voilà, ça y est.
Bienvenue, merci. Parce que vous êtes sur les chapeaux de roue. Là, vous avez déjà pas mal joué. Vous continuez, vous enchaînez au théâtre du Grand Rond. Et c'est chouette aussi de venir voir les Toulousains qui restent ici et qui bossent, qui partent pas sur les festivals.
Donc, qui se lèvent tôt aussi. La France qui se lève tôt.
La France qui se lève tôt, mais qui va au théâtre.
Voilà.
Alors hier soir la salle était assez comble et dans le petit texte du spectacle on sent déjà un petit peu un ton politique. Qu'est-ce que vous avez cherché dans ce spectacle à montrer, à donner, à voir, comme sujet à débattre?
C'est dans l'écriture même du texte réellement. Je pense que ce texte est écrit à mon avis quand même avec un objectif un peu... clair par rapport à ça, de parler d'une société avec ceux qui avancent et ceux qui restent, qui ont plus de mal, avec la métaphore du train, de ceux qui arrivent à rester dans le train et donc qui avancent, et ceux qui descendent et qui peuvent plus remonter. C'est vraiment écrit comme ça, et après nous, on a juste mis en image et encore, mais encore avec PS, et pour le reste, je sais pas, ouais, j'ai l'impression que c'est le but de cette pièce aussi, que de dénoncer
et aussi
les inégalités.
Dénoncer les inégalités et les préjugés. L'image préconçue qu'on a de l'autre sans le connaître. Et puis voilà, quoi, ceux qui ont l'air un peu méchants ne le sont pas forcément. Ceux qui veulent faire des leçons, sinon de pas de démocratie, mais sociale, ou peuvent... être de sacrées enflures sous couvert de vouloir aider les autres,
oui,
et de décider à leur place. Voilà quoi.
Oui, puis c'est pas uniquement pour dénoncer, c'est aussi que ça nous amuse beaucoup. C'est très drôle. Il y a une espèce de constante inversion des choses. Les gens bien se révèlent être vraiment très on va dire sauvages aussi à l'intérieur. Ils ont des pulsions, ils ont des choses. Et c'est tout ce qui fait que ces personnages, les forains, on peut les craindre et qui se butent à ce qui fait que les gens bien aussi, ceux qui se présentent comme bien aussi, peuvent être aussi dangereux, quoi. Et c'est plutôt affreux, sale et méchant, plutôt que... Il n'y a pas vraiment de volonté de montrer que ceux qui sont dans la panade sont meilleurs que les autres et tout. C'est simplement qu'ils ont chacun leur manière d'être dangereux. Par moment, quoi, c'est tout.
Et puis ces trois forains qui ne demandent rien à personne, qui ne sont pas assistés, qui se débrouillent, qui accueillent ces deux accidents que sont Hélène et Olivier Francard, qui descendent d'un train qui n'aurait jamais dû s'arrêter là. Il les héberge et ces deux de la société, entre guillemets, normale ou normée, vont se faire une mission de vouloir les sortir de la condition dans laquelle ils se trouvent. Voilà. Et qu'on ne demande rien à personne et que leur font leur sacerdoce et deviennent un peu plus que désagréables.
Bon. Ils prennent des risques.
Alors, le décor sur scène occupe-t-il une place importante dans le jeu, dans la pièce ?
Assez, oui. C'est dans ce campement qui n'est ni fait ni à faire, entre une caravane, il y a un camion qui est en panne, qui représente aussi le fait qu'ils ne bougent plus, quoi. Ils sont ici, ils ont peut-être eu ces forains, un passé avec des manèges, avec de l'activité, et puis les accidents de la vie ont fait que ils sont ici, là, sur leur tas, à côté d'une décharge et d'une voie ferrée. Et...
avec des camions en panne, des manèges en panne, c'est-à-dire que plus rien ne bouge, quoi. Là où il y avait sûrement une vie nomade et voilà, oui, de la route et tout ça, bon, bah là, c'est fini, mais ils sont collés dans leur, dans leur décharge.
Comme pas mal de forains, d'ailleurs. Hein,
qui finissent par plus bouger. Oui,
qui finissent par plus bouger.
Se sédentariser.
De toute façon, le monde là, lutte contre les nomades. Là j'ai entendu dernièrement que les villes refusaient l'accès à leurs murs, au cirque, par exemple. Ils ne les accueillent même plus. Donc là, il y a un problème, vraiment. On essaie d'éliminer les nomades. Ouais.
On est de plus en plus en périphérie.
C'est terrible, avec des lois et des normes sur les terrains qui sont hyper stricts.
Ah oui, c'est jamais direct, c'est toujours...
C'est enrobé.
Ça passe mal. Et donc là, vous faites partie tous les trois de la compagnie du Périscope.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a réuni sur ce projet? Parce que ça fait depuis 2005 que la compagnie existe.
Oui, la compagnie existe depuis 2005. C'est notamment Laurent Deville qui est notre metteur en scène et qui a monté plusieurs pièces depuis des années. Et puis les rencontres, le fait qu'on ait eu envie de travailler ensemble et qui nous propose ce texte, avec Antonio aussi qui l'avait lu, le texte des forains. Et le fait de demander à trois comédiens que sont Nicolas Simoneau, Christelle ici présente et puis moi qui avons beaucoup travaillé sous chapiteau, aussi en rue, presque comme une évidence de nous prendre tous les trois en forain avec en compagnie d'Antonio et de Louise qui eux ont fait beaucoup de théâtre en dur, en salle. Et donc voilà, ces espèces de rencontres, de déclenchements et puis de plaisir à travailler ensemble, à se découvrir ou se redécouvrir.
Et à se faire rire, parce que qu'est-ce qu'on se marre.
Ah, ça, c'est important. Puis c'est, du coup, en général, c'est communicatif. On sent quand une troupe s'entend bien.
Ouais, je pense.
Le spectateur le sent.
Oui.
Enfin, s'il y a des tensions, il le sent aussi.
Ouais, tout à fait. Mais oui, je pense qu'on a le plaisir du jeu et du jeu ensemble. Donc ça, c'est pas mal.
Et puis c'est une compagnie où il n'y a pas de souci d'égo.
Ce qui est rare au théâtre, oh là quand là. Même.
Ce fonctionnement de partir en tournée, de faire la route, d'installer, de démonter, et puis. C'est très agréable ça.
Il n'y a pas de hiérarchie.
Pas se tirer la bourre, c'est très très bien. C'est d'un confort.
D'une famille, quoi.
C'est très important. Ouais.
En tout cas, on a des égos qui s'imbriquent bien ensemble.
Et voilà, parce que quand même, pas de problème d'égo chez des théâtreux. Ouf!
C'est vrai.
Alors, c'est quoi votre programme de l'été, du coup? Parce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé. Vous étiez à Avignon, vous avez fait Chalon.
Alors, avec les forains.
Nous n'étions pas à Avignon.
Non.
Non, on n'est pas fan de ce fonctionnement de ce festival. Et puis, je ne sais pas si ce spectacle aurait sa place là-bas.
Mais dis donc, mais parle pour toi. Non, par rapport aux forains, oui, je ne pense pas que c'était forcément le plus judicieux, mais...
Donc, vous étiez à Chalon.
Donc, on était à Chalon. Là, donc, on est au Grand Rond 3 semaines. Et après, on repart à Aurillac, au festival Éclat d'Aurillac. Voilà. Donc, ça fait déjà... C'est pas mal, quand même.
Pas mal.
Ça nous fait 25 dates ou je sais plus combien.
Ah oui, ça fait un bon petit échauffement, là.
Ouais, là, c'est
vous
pas mal.
Vous êtes lancé, là.
Le tour de manège, ça va tourner, là, les manèges.
Et comment ça va se passer, du coup, de l'adaptation au Grand Rond? Vous revenez un petit peu en salle pour ressortir après?
Ben, disons que là, on arrive de Chalon. Donc, déjà, c'était assez... on était sur un terrain assez vaste à Chalon. On s'était bien étalé quand même. Donc là, on a vu hier qu'on ne pouvait pas tout mettre de notre décor. Hein, on a un peu resserré. Et pareil au niveau des voix, c'est du rapport public. C'est aussi autre chose, quoi, de revenir à la boîte. Et c'est intéressant aussi, ça, c'est l'avantage de ce spectacle, puisqu'il a été créé d'abord en salle, au fil à plomb, qui plus d'accord, est, donc ouais. Dans le genre petit, on oui, peut difficilement faire mieux. Donc on est parti du très très petit, puis après on l'a emmené vers le plus grand. Donc maintenant on a un spectacle multi, on s'adapte. On a les deux, la version un peu moins forte, la version un peu plus ouais. forte, la version un peu étoffée, la version serrée. Mais je pense que dans les deux versions, il y a matière pour le spectateur, il y a de quoi prendre, il me semble. Mais voilà, en gros, c'est ça notre été, je crois.
Ouais. Ouais. Oui, parce qu'après, c'est
plus les choses, novembre, oui, plus les autres choses qu'être intermittent, c'est travailler avec plusieurs compagnies. Mais pour celle-là, c'est déjà
donc
pas
c'est
mal.
C'est pas mal intensif, ouais.
Est-ce que donc, cette compagnie joue surtout des textes d'auteurs contemporains ? Et donc, cette fois-ci, est-ce que vous avez participé au choix de l'auteur ? Ou est-ce que c'est le metteur en scène qui choisit et qui vous propose après ? Ou est-ce que chacun a parfois une idée, dit « Tiens, et si on pouvait adapter ce texte ? » Alors, je ne dirai pas le nom de l'auteur, parce qu'il est imprononçable.
Stéphane Vostovitch.
Vostovitch, voilà.
Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est Antonio et Laurent Deville qui nous ont proposé ce texte. Et puis à la lecture, il y avait comme une évidence. Et cette distribution s'est faite aussi au fur et à mesure des semaines. Voilà.
Moi, je ne faisais pas partie de la compagnie. C'est parce que la femme, l'actrice qui jouait Jackie, s'est cassée la voix. C'est ça.
Ouais.
Je crois que c'était une semaine ou assez vite avant la première. Oui. Donc il fallait trouver quelqu'un qui allait vite et qui pouvait. Oui, voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est Fred avec qui on a travaillé parce qu'on a beaucoup travaillé à la GIT ensemble. Et voilà, donc il s'est dit, ah ben Christelle, peut-être ça peut aller. Donc j'ai repris le rôle. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée au Périscope. Mais c'est vrai qu'après, par contre, je ne les ai plus lâchés.
Non, et puis on ne veut pas qu'elle nous lâche.
Ah oui, apprendre un rôle en une semaine, c'est quand même un beau challenge.
Surtout que ce texte est particulièrement, comment dirais-je, ping-pong-esque.
Oui, apparemment, il y a un rythme quand même qui est assez dense à tenir, à emmener... Ouais.
Puis des répliques très très précises, enfin c'est un jeu assez précis quoi.
Oui, sous des airs très simples, où c'est très oral en fait comme style, mais c'est très, oui voilà, c'est comme quand on est les 5 sur le plateau, c'est vraiment un jeu de ping-pong au 1 près quoi, et ça marche si c'est de l'horlogerie quoi.
Avec pas mal d'humour, et l'humour, moi j'ai l'impression que c'est quand même une des choses les plus difficiles aussi finalement à obtenir d'un public.
Je suis d'accord. Oui, ouais, c'est une vraie rythmique. Il y a quelque chose de l'ordre de la rythmique dans l'humour aussi, qui, au-delà du jeu ou du quelque chose. Ouais.
Bah surtout un rire qu'on veut pas absolument obtenir. C'est-à-dire qu'on obtient par la situation et par ce qui se passe. Ça se construit doucement. Et au bout d'un moment, c'est que les gens soient emportés par le rire malgré eux, et pas d'aller les chercher pour leur dire « Allez, riez à ça, riez à ça ». C'est absolument pas le cas dans cette pièce, en tout cas.
Il a quelle saveur, ce rire, du coup ? Est-ce qu'on rit jaune ?
Oui, j'allais le dire.
C'est grinçant.
Il est, oui, il y a par moments, il y a le rire franc sur certaines blagues qui demandent que ça, mais il y a aussi des moments où, oui, je pense que ça rit jaune, ou ouais. ça rit de manière vraiment... de défensive, enfin ça oui. pourrait réagir autrement, mais ça rit parce que tellement c'est énorme. Oui, ça, là l'auteur cherche vraiment à, ça tire un peu dans tous les sens.
Ouais, il y a plein de sortes de rires, du rire exutoire, du rire pincé, c'est vrai, il y a plein de façons
même,
de rire dans
après,
cette pièce.
Après je pense que ça dépend même aussi des publics, c'est-à-dire que là on est revenu à la salle, donc c'était des, il y a même des, oh, il y a des, on sent des fois des comment dire,
des stupéfactions, des surprises.
Merci. Des stupéfactions aussi, voilà, des oh, parce que vraiment ça a l'air d'être beaucoup quoi, et le fait que ce soit concentré, je pense que c'est encore plus fort.
Et nous, sur le plateau, on entend les commentaires, certains commentaires. Quand on entend, non, c'est pas possible. Oh non, il va... non.
Est-ce que le public est plus sage en salle et plus désinhibé dans la rue ?
Oui.
S'exprime plus librement ? Ouais. Oui.
Là, dans la rue, déjà, vous êtes au sol. On a installé les moquettes, là, par exemple, à Chalon. Les gens arrivent. Ça se côtoie. Ça peut fumer les cigarettes, ça vient avec son chien, ça vient en famille avec la poussette, et on a quand même eu des bébés comme spectateurs qui n'ont pas bronché alors que alors qu'on des potes, là les décibels ça y va, et alors qu'en salle, ouais, non, les gens sont installés, sont
Il y a un côté plus sacralisé au niveau du spectacle.
Oui,
donc,
moi, je pense
du coup, on va au théâtre.
D'où la surprise de voir ces forains, ce volume sonore, ce qu'ils se permettent. Ils sont chez eux, les forains. Et même dans un théâtre, ils sont chez eux. Quand on est allé jouer, que ce soit à Pamiers, là, dans cette énorme salle gradinée, ou à Saint-Jean, ou... on a eu des réflexions, pourtant ce sont des salles assez denses, et d'entendre, vous étiez des fauves, quoi. On a eu des fauves sur le plateau, et la salle n'était pas assez grande pour vous. Donc quand on est en plein air, là notamment à Chalon, à côté de la gare où on entendait les vrais trains, et à côté de la route, et le fait que même le public oublie un peu cet environnement avec ce qu'on leur propose, ce qu'on leur offre...
Bah, ou même, puisque c'est ce qu'on raconte aussi dans l'histoire, ça tombait aussi quelque part, c'était vraiment très proche de...
Oui, ça tombait bien.
Oui, c'était un repérage aussi qui avait été prévu pour, mais je pense que ça, par exemple, c'est difficile en salle à donner. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très...
Il y avait déjà l'ambiance qui était semée et qui mettait le public en condition.
Tout à fait, ouais.
Vous nous avez préparé un petit extrait du spectacle.
Ouais.
Ouais, on s'est dit que c'était bien pour donner envie.
Ah bah oui.
Donc on va vous resituer un tout petit peu avant de le démarrer. On a Jackie et Eddie, les deux forains qui sont dans leur campement. Hélène est arrivée, descendue d'un train, elle se fait héberger dans la caravane de Jackie, parce qu'elle pense que son mari est aussi descendu, qui est Olivier Francard. Et le passage là qu'on va vous proposer...
C'est pas Olivier Francard, le mari d'Hélène, tu dis n'importe quoi.
Non, elle pense que c'est son mari qui est descendu.
Ah,
alors que
c'était pas très clair ta phrase.
Oui, autant pour moi. et l'extrait qu'on va vous proposer, c'est un trio là, entre Olivier, Jackie et Eddie.
On vous écoute.
Et c'est grave ce qu'il a, votre camion, je pourrais peut-être vous donner un coup de main.
Il s'y connaît.
Qui ça?
Bah toi, Paul Pop. Tu t'y connais en camion?
C'est-à-dire pas vraiment, mais je suis de bonne volonté.
Mercedes.
Pardon?
C'est un Mercedes.
Ah?
Tu t'y connais en Mercedes?
Non.
Mais un Mercedes de 63.
Oh oui, 63, c'est sûr que ça peut tomber en panne. Hein.
Pourquoi?
Parce que 63, c'est pas tout jeune.
Comment ça?
C'est vieux, 63.
Non, c'est pas vieux.
Ouais, si, quand même, 63...
C'est pas vieux, 63, hein, Eddie?
Non.
On l'a acheté en 82, hein. Hey, Eddie, tu te souviens quand j'ai su qu'il était de 63? Oh, ben ça m'a fait quelque chose. Hein.
Mais 63, c'est bon pour le cimetière.
Oh, c'est l'année de ma naissance.
Hein?
C'est pas vieux.
Ah, mais non, c'est pas vieux du tout.
Non, c'est pas vieux.
Non, pas du tout. 63, ça vous fait 10 ans. Ah oui, quand même. Oui. Ah, mais non, pas de problème. Hein.
C'est pas vieux.
Non, pour vous, non. En revanche, pour un camion...
Même, c'est pas vieux.
Oh, si je regrette, pour un camion, c'est vieux.
Bon, on dit que c'est pas vieux.
Non, d'accord.
Et puis c'est tout.
Remarquez, vous me direz, une panne, ça peut arriver à n'importe qui, hein, même à un camion neuf. Hein, de nos jours, ça ne se prévoit pas à tous les coups. Moi-même, récemment, j'ai eu un problème.
Bon, allez, va-t'en maintenant. Hein.
Oui, vous avez raison, je bavarde.
Tu vas te mettre en retard.
Vous avez raison, tout ce temps qui passe, ça...
Ça passe.
Voilà. C'est loin?
À gauche, après le chemin.
C'est par là?
Oui, à gauche, après le chemin. 2 heures.
2 heures.
Minimum.
2 heures. Mais où il sera, mon train, dans 2 heures?
Est-ce que je sais, moi?
Mais dites-moi, vous n'avez pas l'intention de le réparer, ce camion?
Si.
Ah, voilà la solution.
Ah oui, mais c'est pas Eddie, hein. C'est mon beau-frère qui répare.
Ah, et où il est?
Eh ben, pas là.
D'accord. Et le bricoler, hein, vite fait, juste pour faire quelques kilomètres.
Non, c'est lui qui répare.
Et quand est-ce qu'il sera là?
Bah, va savoir. Il est parti chercher la pièce en ville.
Mais il est déjà très tard, les garages sont fermés.
Bah, il sait pas lire l'heure.
Si, c'est la lire.
Non.
Ah bah, l'autre jour, j'ai demandé l'heure, il m'a dit l'heure. Hein.
Alors ça me ferait mal.
Je te jure, j'ai demandé l'heure devant la pharmacie, il m'a dit l'heure impeccable.
Ah d'accord, devant la pharmacie.
Ouais, il a vu 10 et il a dit 10 et après il a vu 30 et il a dit 10h30.
Eh bien, c'est bien ce que je dis, c'est pas la lire.
Si, c'est la lire.
Non.
Bah, c'était l'heure et puis c'est tout.
C'est pas l'heure écrite en vrai.
Bah alors là, tu m'embrouilles.
Bon, il y a des aiguilles devant la pharmacie, hein. Il y a des aiguilles.
Et dit contrôle.
L'heure vraie, elle est écrite avec des aiguilles.
Pas forcément.
Tais-toi.
Bah alors à la pharmacie, c'est écrit pour de faux peut-être.
Affirmatif.
Bah, je regrette, c'est également pour de vrai.
Et toi, je t'ai dit.
Bah si ça te fait plaisir.
C'est pas pour me faire plaisir, c'est comme ça.
Vous savez, l'heure peut être écrite de plusieurs manières différentes.
Ta gueule.
Bravo.
Un petit extrait.
T'abuses. Alors on était aux premières loges, très saisis par vos personnages qui sont quand même très forts. Il y a un réel...
Avec les micros, j'avais peur.
Allez, c'est surtout le cas avec le casque.
Avec le casque, retours, oui, c'est bizarre, hein. Vous avez le retour et c'est pas évident. Hein. Et oui, vous avez quand même une interprétation, enfin des personnages qui changent vraiment de votre quotidien. Est-ce que ça...
changer quelque chose chez vous, bouger quelque chose, créer des interrogations, des questions, d'interpréter ces rôles.
Je pense que c'est théâtralement que ça bouge quelque chose. Cette pièce nous a forcément transformés parce que elle nous plaît tellement, on est tellement bien dedans. Et puis je pense que moi j'avais jamais joué ce genre de pièce en fait. Je sais pas pour vous, mais une pièce qui ressemble à celle-là, j'en ai jamais trouvé.
Non, des personnages qui ressemblent à cela,
oui,
moi j'ai déjà fait.
Peut-être, oui. Mais dans l'écriture, dans la manière. Et forcément, oui, ça, un comédien, ça, c'est une pièce qui compte pour lui, ça le transforme. Après, humainement, dans ce que ça raconte, je pense qu'on était déjà formés.
Oui, après, par exemple.
Voir le monde comme ça.
Moi j'avais peur de faire une caricature de foraine. Et ou de qu'est-ce que ça veut dire un forain, enfin voilà, justement, et c'est l'objet de la pièce en plus, donc de pas moi-même être victime de préjugés ou de partir sur des choses trop. Et en fait, plusieurs fois, j'ai eu des vraies foraines qui sont venues me voir en me disant oh, on dirait ma tante, Jackie, c'est ma tante, oh non, mais elle fait pareil que toi, elle fait quand elle appelle mon oncle et tout. Enfin, que, là où je me disais, c'est peut-être un peu trop, j'ai eu vraiment les félicitations du jury.
C'est les meilleurs compliments. Hein.
Alors voilà, pour moi, c'était les meilleurs compliments. Et bien au-delà d'autres comédiens ou de la profession. C'est-à-dire que je voulais vraiment être juste par rapport à ce monde et le redonner, mais avec sincérité.
Mais le doute, on l'a toujours sur n'importe quelle pièce nouvelle abordée. C'est-à-dire... quelle légitimité on a, est-ce qu'on n'est pas dans, comme dit Christelle, une sorte de caricature ou de surjeu, parce qu'on essaye de défendre... les personnages sont vraiment très très bien écrits. Ils sont, nous, on n'a plus qu'à se mettre dans cette espèce d'habiller ce squelette de texte pour, avec notre corps, notre voix, nos intentions. Mais comme tu disais à Chalon là, quand à la fin de la représentation, on a encore eu des forains qui sont venus nous dire vous êtes d'une famille de forains, c'est obligé. Je dis bah non pas du tout. Non mais alors votre femme elle est foraine elle. Bah non plus. Ah, mais le frère c'est forcément. Et non. Et ça c'est un mystère pour eux le fait et pour nous un.
C'est gratifiant.
Non seulement un compliment, mais le fait de dire, bon, continuons là-dedans.
Ouais, parce que l'auteur, ce qu'il faut dire quand même sur l'auteur, c'est qu'il a très bien pigé au niveau de la manière de parler et du vocabulaire. Il avait vraiment trouvé une façon de différencier les personnages, la manière dont moi, qui suis un petit bureaucrate, je ne sais pas, de province, on ne sait pas trop qui il est, mais, et puis eux qui sont qui vivent au jour le jour, hein, dans la dureté, ils ont des phrases assez sèches, des formules qui ne demandent pas du tout de réponse. Hein, c'est quand ils disent un truc, c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Et donc, je pense qu'il a vraiment trouvé la vérité de ces personnages. Et c'est, ça aussi, c'est écrit. Et je crois qu'on lui... On lui doit beaucoup à ce niveau-là pour cette vérité. Après, ça n'empêche pas qu'il faut les jouer, quoi. Hein. Et il faut bien les jouer, quoi. Il ne faut pas trahir le texte et ce qu'il a voulu faire.
Parce qu'entre un Eddy qui doit avoir 40 mots de vocabulaire et, et un Olivier Francard qui ne sait faire que des phrases...
Moi, je phrase.
Hein. Oui, c'est ça. Il s'est vraiment amusé à... Parce qu'en plus, ou Hélène aussi, qui elle est sur... C'est vraiment la bobo qui fait un travail sur elle. Donc il y a des espèces de malentendus, d'incompréhension. Je vous donnerai un téléphone. Hein, elle trouve qu'Eddy, il a un petit problème. Eddy, il doit faire son deuil de quelque chose. Elle ne sait pas quoi, mais elle croit qu'il doit faire son deuil. Lui, il comprend. Ah, mais deuil de quoi? Elle dit, mais je vous donnerai un téléphone. Pourquoi faire? Enfin, c'est vraiment deux registres et d'être et de langage qui se confrontent. Et des fois, c'est quand même absolument croustillant. Quoi. Mais on sent que c'est des dialogues de sourds par moment, parce que personne ne parle de la même chose, en fait. On est vraiment sur deux modes complètement différents. Et c'est vrai que ça, c'est un beau travail d'écriture. Ouais.
Est-ce que... Donc, il y a toutes ces collusions qui sont déjà dans le texte. Je me demandais quel était le travail du coup du metteur en scène, de Laurent Deville. Quel a été son regard à lui? Quelle a été sa touche? Qu'est-ce qu'il a apporté à ce texte qui vous a déjà donné beaucoup de matière? Alors, déjà la volonté de le respecter, d'aller dans le sens du texte, après ce que j'entends.
Alors, ouais. Laurent est un metteur en scène très, très intelligent, à mon sens, parce qu'il sait réunir les gens et puis leur laisser le maximum de liberté. Il nous dit quand on s'éloigne, quand on n'est plus... quand on est plus bon, quand on commence à aller un peu n'importe où. Mais par contre, il nous laisse vraiment, vraiment construire nos personnages et vraiment suivre notre voie tant qu'on est dans, tant qu'on sert le texte. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est quelqu'un. Enfin, voilà. Et après, je sais pas votre ressenti.
Oui, c'est de l'ordre de la confiance et il laisse faire ses comédiens, ses comédiennes. Donc,
est-ce qu'il intervient beaucoup sur le rythme? Parce que là, dans l'extrait, c'est presque une partition musicale. Et est-ce que son rôle, il est là aussi, comme un chef d'orchestre de...
Disons que je pense qu'il intervient sur le rythme, peut-être d'une certaine façon, mais il intervient aussi sur... Donc, nous, on joue, c'est vrai, à partir du moment où on joue et qu'on est dans un plaisir et dans une... Mais après, lui, il est plutôt sur un regard, et il est assez précis pour ça, d'équilibre du plateau. C'est-à-dire comment, à un moment donné, on est tous 3-4 tassés dans un coin et un autre qui est un peu à part, ou des rendez-vous de regard, de choses très, très précises. C'est-à-dire qu'il a cette capacité à... Je trouve, si on estime que le plateau, c'est un peu un radeau et qu'il faut être toujours... voilà, il a vraiment cette faculté de nous... Voilà, on était libre, mais avec quand même toujours... Il pouvait replacer des choses, après le fameux regard quand tu ris. L'autre, il est toujours un petit peu à part, au point qu'on l'oublie. Puis à des moments, il se fait remarquer, donc tout le monde lui saute dessus. Ça devient... voilà, il a cette justesse-là sur des choses très, très simples, mais qui précisent beaucoup.
Parfois, les metteurs en scène qui sont eux aussi comédiens peuvent avoir tendance à être trop intrusifs ou à venir sur le plateau.
Non, c'est pas du tout ça.
Et puis, nous laisse proposer. Par exemple, l'histoire du regard et tout, c'est venu d'une proposition. Ça lui plaît, il garde. Et puis on voit.
Ça, on travaille comme ça, vous construisez.
On construit. Et puis pour revenir un peu au texte. Le texte l'inclut, ce rythme. Tout le travail, ça consiste à servir vraiment le texte. Et au moment où ça accélère, c'est écrit, en fait. Parce que les phrases deviennent de plus en plus courtes. Tac, 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 tac. On sent qu'il y a quelque chose de naturel dans ce texte, en fait.
Et puis, quand vous répétez avec Laurent Deville, vous ne répétez pas des scènes, vous répétez la pièce entière. Donc, vous allez jusqu'au bout et c'est à la fin où il a toujours son petit carnet et il nous fait le récapitulatif de ce qu'il a noté. Et l'intérêt, voilà, pour lui, c'est pas de travailler des... De toute façon, dans cette pièce, il n'y a pas de scène. Enfin, c'est vraiment écrit sur la longueur, même si on a des fois des duos ou trios où on est à 5. Mais à chaque fois qu'on travaille avec lui, c'est sur la durée. Voilà. On démarre, on va jusqu'à la fin et après on a les retours. Donc à chaque fois on sait que on va pas répéter pour 5 minutes ou 10 minutes ou refaire un... C'est allons-y, allons-o, et puis... Et il ne met jamais un pied sur le plateau.
Ça c'est parce qu'il est fainéant.
Mais on est très bon.
Et lui étant comédien...
On va faire mieux.
Étant comédien aussi, il sait que c'est pas le metteur en scène qui, le soir de la représentation, sera sur le plateau. Donc comment...
Le loup. Il est à Avignon là en ce moment.
Ouais.
Alors courage.
Et du coup, est-ce qu'il y a eu des moments particuliers ou quelles ont été vos inspirations pour se plonger dans ce texte et pour se mettre à jouer ce texte?
Moi, je pars toujours vraiment le plus possible de moi. Enfin, au sens où, par exemple, Jackie, moi, je trouvais que ce qui était intéressant, c'était de comprendre comment elle fonctionnait. Mais encore une fois, il me semble que tout est écrit. C'est-à-dire que c'est une femme d'un certain âge, mais elle n'a absolument pas, comme là, l'extrait qu'on vous a... Non, c'est pas vieux, 63. Donc, pour Jackie, elle n'est pas vieille. Voilà, j'ai vraiment essayé de... elle est complètement fan de sa petite-fille. Ses enfants s'appellent... Mais elle n'est pas grand-mère. Elle est fan, voilà, elle a un côté... Donc, pour moi, c'était assez évident que cette femme s'habillait comme sa petite-fille, par exemple. Donc, Jackie, elle est habillée comme une ado de de 16 ans, même si elle est de 63, puisqu'elle a décidé que non. Bon, elle est maquillée comme une voiture volée, mais ça, c'est un peu, ça fait partie du kit de... Voilà,
ouais, et, mais elle est belle. Hein.
Mais elle est belle. Et tout est comme ça. Moi, j'ai l'impression que tout est... Moi, je me suis raconté, je me suis inventé tout un parcours, des choses qui ne sont pas du tout écrites dans le texte, mais que, voilà, Jackie, après manger, elle se refait les ongles, d'ailleurs, j'en ai encore du... Elle se met du bleu, puis il y a surtout qu'à un moment, il dit qu'elle n'est pas belle, enfin, ou je ne sais pas, il fait une réflexion, donc ça la vexe, donc elle se remet, elle se remaquille, elle se re... Après, il dit que c'est sale, donc elle va faire son shampoing, elle va se laver les cheveux, elle revient avec son truc pour montrer que quand même, on se lave. Enfin, moi, j'ai été chercher vraiment dans prendre tous les indices qu'il y avait, ça m'a aidé à aussi me construire un parcours, c'est-à-dire tout notre sous-texte, nous, notre sauce de comédien, là, qu'on se fait. Qu'est-ce que je fais quand j'ai rien, soi-disant, de... On est sur le plateau à des moments et on est en... De m'inventer une vie, quoi. Je me suis vraiment dit... Quand on mange nos raviolis. Et bon, bah dehors, c'est assez facile. Mais quand on est en salle, moi, je me dis vraiment que ces gens mangent dehors. Donc, j'ai un rapport à l'espace, au ciel, aux étoiles. Je pense que tout ça, c'est... Mais pour moi, c'est écrit. Enfin, c'est pas écrit directement, mais... d'une certaine façon, ça, c'est... si on se laisse aller à l'imaginaire et de tout ce qu'il y a déjà dans ce texte, il y a de la matière, il me semble. Enfin, moi, je dirais que j'ai procédé comme ça, mais je dirais un peu tout le monde pareil, non ? Il y a plein de choses à piocher, en fait, dans ce qu'il donne, quoi.
Ouais, moi,
et après, on en a rajouté un peu chacun sa sauce.
Il y a la force du texte, et puis il y a le regard des partenaires de jeu, aussi bien Laurent que... Nicolas, Louise, Christelle, Antonio, puisque il y a un gros travail sur le focus, c'est-à-dire on se parle pas forcément les yeux dans les yeux, ça peut se, c'est dans le regard, dans les écoutes, dans les silences, où il y a aussi beaucoup de matière. Donc le texte est là, et puis après il y a le corps de chacun. Qui habite ce campement, quoi.
Oui, puis les situations. On se construit beaucoup dans les situations. Parce que des petits bureaucrates comme Olivier Francard, celui que je joue, on l'a tous un petit peu quelque part. Donc, tous, on a un petit Francard.
Et on l'a souvent croisé aussi.
Voilà, on l'a souvent croisé aussi. Et donc, croire en la situation, quelle qu'elle soit. Mais y croire à fond. C'est-à-dire, on est plongé dedans, on peut pas s'en sortir. Moi, surtout, là, je me retrouve avec eux dans un no man's land où il n'y a rien. Donc, c'est croire vraiment, mais comme un gosse. Croire vraiment qu'on est englué dans ce truc-là et puis on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, il faut se débattre là-dedans, quoi. Et puis ça se construit en se débattant, quoi.
Et à vos imaginaires s'ajoutent évidemment ceux... des spectateurs et des spectatrices qui viennent vous voir.
Tout à fait.
On arrive à la fin de cet entretien, donc il me semble important de redonner toutes les infos pratiques pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont envie de venir vous découvrir sur scène, de vous voir. Donc c'est au Théâtre du Grand Rond, qui ne ferme pas cet été.
Non.
Et vous y êtes pour 2 semaines ?
3 semaines.
3 semaines.
Jusqu'au 13 août.
3 semaines.
13 août.
Avec relâche les dimanches, lundi. Ouais, et sinon, c'est tous les jours. À 20h30.
Voilà. Et puis ceux qui ne peuvent pas venir, peuvent venir à Aurillac nous voir. Pastis 98.
Ouais. Les dates pour Aurillac,
c'est ça. Les dates pour Aurillac, c'est quand ?
Alors,
c'est du 15 au 19 août.
15 au 19 août.
Voilà.
C'est ça. Très bien.
Merci beaucoup à vous trois.
Merci à vous.
Et puis, bon spectacle ce soir.
Ouais. Merci pour votre accueil.
Et puis venez. Hein.
On n'hésitera pas, surtout qu'on a le temps de venir là.
Ah bah voilà, venez faire un petit tour de manège.